Les voies de service, mercredi 17 octobre 2018. Bonjour tout le monde, Isabelle Falardeau au micro en compagnie de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et je célèbre le retour de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Enfin, pour nous, c'est son retour.
Bien, oui.
Il est depuis plusieurs jours. Bonjour, Jean-Sébastien.
Bonjour.
Et donc aujourd'hui, en première partie, moi, je vais vous parler d'une autre qui est en voie de disparition et de ce qu'on veut faire pour la préserver. Et de votre côté, Daniel?
Et devinez quel jour on est aujourd'hui. Vous l'avez dit tantôt, c'est l'automne. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui
ouais,
au Canada?
Certaine, vous allez reconnaître une certaine thématique.
Oui, oui, oui.
On n'entend parler. Je ne suis plus capable.
Bon, ben, vous allez n'entendre parler encore pendant
non,
une
non,
heure.
Non, non.
Alors, vous allez nous parler ouais, des liens entre une certaine
pas.
Substance et la musique.
Absolument. Je ne peux pas.
Étonnamment, il y a des liens à faire.
Étonnamment, oui, j'étais très surpris de voir ça.
Merci.
Donc, je vais vous parler aujourd'hui.
Et Serge, de votre côté, en première partie.
Je vais vous parler, c'est un sujet, absolument, je parle d'histoire. Là, c'est les œuvres d'art dans le métro de Montréal. Et la plupart datent de 1966, alors c'est un peu... Et ils touchent beaucoup à des choses
c'est historique
historiques
quand
aussi.
Même. Oui, oui. Merci oui, beaucoup. Alors Serge, vous commencez tout de suite avec ces fameuses galeries souterraines, galeries d'art souterraines,
oui.
En fait, dans le métro.
C'est dans la revue L'Itinéraire du 15 octobre, donc de cette semaine, et ça s'intitule « Galeries d'art souterraines, nos camelots vous guident dans le métro ». Ce sont les camelots qui sont en poste à aux différentes stations du métro. Chacun a un coup de cœur pour des œuvres d'art. Le métro de Montréal compte 90 œuvres d'art dans les 68 stations du réseau. Et pour la plupart, elles ont été installées bien avant que le gouvernement du Québec oblige les propriétaires de bâtiments publics à consacrer 1% de leur budget à l'acquisition d'œuvres d'art. Avec ses collègues camelots qui travaillent en station, Jean-Paul Lebel nous invite à redécouvrir le patrimoine culturel souterrain de Montréal, étalé dans les pages qui suivent. Les camelots s'y improvisent, guident à travers les différentes stations du réseau qui forment une véritable galerie d'art. Alors, le premier, M. Lebel, lui commence. Il a choisi une œuvre emblématique pour débuter la visite, le monument à Mère Émilie Gamelin. C'est une sculpture.
Ça, c'est à Berry ou...
Oui, juste en sortant de Marchambault, là,
oui,
à l'intérieur
oui.
De
ah,
la station.
Ah, la statue.
Oui, la statue de Mère Gamelin,
ah,
de la religieuse.
J'ai toujours pensé que c'était un monsieur.
Non, Mère Gamelin. Et vous savez que, si je ne me trompe pas, à cette station-là, il y avait un couvent là qui était dirigé, qui a été créé par Mère Gamelin.
Je pense que c'est là qu'elle a commencé ses œuvres,
oui,
effectivement.
C'est ça, oui. Alors, cette sculpture a été réalisée en 2000 par Raoul Hunter, qui est l'ancien caricaturiste à De Gazette. Et elle se trouve dans l'édicule donc Sainte-Catherine. Fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Providence, Émilie Gamelin est venue en aide aux oubliés en soulageant la faim et la misère des pauvres, des itinérants, des prisonniers et des malades contagieux lors des grandes épidémies du 19e siècle. « Si Mère Gamelin vivait encore, prendrait-elle soin des itinérants? J'en suis sûr, affirme Jean-Paul, mais elle verrait aussi comment l'itinéraire poursuit son œuvre à sa façon. » Une autre œuvre que je vous montre ici, celle-là, vous l'avez...
C'est comme
oui,
des vitraux.
Oui, oui. On dirait qu'on ne les voit plus, hein. On est tellement habitués.
Oui.
Ça, c'est à Berry-UQAM.
Ah oui?
Oui.
Ah, ben.
C'est l'une des œuvres les plus imposantes du métro de Montréal, constate le camelot Richard Chabot. Lorsqu'on l'a installé en 1969, le métro était déjà en opération. Il a fallu ériger 3 échafaudages pour procéder à l'installation sans perturber le service. Elles sont quand même assez imposantes, les œuvres dans le métro, là, ces grandes murales-là. C'est une verrière qui trône au-dessus des quais de la ligne verte et elle est composée de verre antique, d'époxy et d'acrylique. Elle fait foi du passé, du présent et du futur de Montréal, ville fondée en 1642. Elle rend un hommage particulier à 3 pionniers, Jérôme Leroyer de la Dauversière, Jeanne Mance et Paul Chaumédé de Maisonneuve. Elle est l'œuvre du peintre Pierre Lapalme sous le pseudonyme de Gaborio et de l'artiste verrier Pierre Osterhat. Ensuite, Henri Bourassa, quelque chose que je ne vais pas souvent à cette citation-là, mais regardez, je vous le montre. C'est,
oui, j'avoue que je n'avais jamais perçu que ça comme une œuvre d'art, oui, mais c'est oui, vrai. C'est des petits points, pour ceux qui ne peuvent pas voir, là, oui, c'est des petits points lumineux blancs et jaunes qui sont en motif un peu comme un losange. Oui.
C'est une sculpture de lumière. C'est le Camelot Tuan Truyeu Hoang. Il a commencé à vendre des magazines là, en 2009, 2 ans après l'inauguration des quais qui desservent l'île de Laval. Et il nous dit, de toutes les œuvres d'art de la station, il préfère ces deux murales du sculpteur de lumière Axel Morgenthaler. Les deux installations en acier inoxydable et diodes électroluminescentes se composent de 98 luminaires trichromes formant 2 triangles et un hexagone au centre. Les images évoquent l'iconographie des Incas, les éléments de la nature, la photographie thermique et les observations astronomiques. Alors,
on en apprend vraiment tous les jours.
Les 3 couleurs de base, rouge, vert et bleu, permettent la reproduction de millions de couleurs. Je vais passer, il y en a plusieurs, mais je vais aller au dernier. Un cadeau belge.
Ah.
Des Belges à la place d'armes. C'est le Camelot Stéphane Allard qui nous dit « C'est une station très achalandée avec la clientèle du Vieux-Montréal et du Palais des Congrès. C'est aussi une station très lumineuse, décorée par l'artiste belge Adrien Lucas. L'installation, qui est un cadeau d'amitié de la ville de Bruxelles, est faite de verre antique soufflé, de verre feuilleté, de verre trempé, de résine d'époxy, d'acier et de diodes électroluminescentes. À l'aide d'un spectrophotomètre, j'irai ça le prononcer, ça prend.
Bravo.
L'artiste a enregistré le spectre lumineux des premiers rayons du jour dans la capitale belge. Utilisant des verres colorés et un éclairage à diode électroluminescente, il a conçu une série de vitraux reproduisant les couleurs intenses de ces lumières naturelles. Et c'est ça ici.
C'est comme une mosaïque lumineuse. Ouais. C'est comme un soleil. On dirait un soleil au centre.
Oui.
Merci, Serge.
Alors, c'est ça.
Et Daniel, de quel genre musical, quel genre musical allez-vous associer au cannabis?
Ben, premièrement, je vais juste mettre en contexte, j'ai trouvé une série de 3 articles écrits par François Lemay sur le site icimusique.ca.
Donc, ça vous a aidé, vous n'avez pas eu besoin, j'étais impressionné par l'ampleur de vos recherches.
C'était assez facile. Ce qui a été difficile, c'est d'enlever parce que les articles sont quand même assez longs. Et donc, l'article de François Lemay, celui-là qui est paru le 31 août 2018, qui posait la question « Musique et cannabis, le pot serait-il à l'origine du jazz? »
Ah, carrément non, à l'origine, coupable, là, mais... c'est vraiment intéressant.
Et bon, à partir du 17 octobre, donc aujourd'hui, il sera possible pour les Canadiens de consommer du cannabis à des fins récréatives. La musique, principalement depuis le début du 20e siècle, vit une relation intime avec le pot au point où l'histoire de la musique, autant que son appréciation, ont été influencées par cette drôle de plante à un moment ou à un autre. Pourquoi, pour plusieurs, musique et cannabis semblent faire si bon ménage? Bonne question, je me suis posé la question souvent. C'est pour ça que je vais lire ça.
Oui.
Je pensais trouver des réponses. En fait, pour comprendre la relation qu'entretiennent cannabis et musique, il faut examiner en premier lieu notre rapport au tempo, au temps et au silence musical que l'on retrouve entre les notes. Intéressant, non? Prenons par exemple le jazz né au début du 20e siècle. Selon le docteur Ernest L. Abel, qui est chercheur et enseignant spécialiste de l'histoire du cannabis, c'est dans les bordels de la Nouvelle-Orléans que le cannabis est devenu une partie inhérente de cette culture musicale.
On remercie quand même les pratiquantes du plus vieux métier au monde.
Ça commence bien. À l'époque, les musiciens devaient jouer de très longues heures, souvent des nuits entières. Comme l'alcool a pour effet d'émousser les capacités techniques des musiciens, en plus de les endormir, ceux-ci se sont tournés vers le pot qui provoque l'euphorie, en plus de rendre un peu plus supportable l'exercice de jouer sans cesse le même répertoire. Donc,
moi, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'ils sont tannés quand ça fait 1000 fois qu'ils chantent la même chanson? Mais voilà une piste de réponse.
Voilà, ça prend quelque chose pour atténuer l'effet. Or, le cannabis ne fait pas qu'euphoriser. Il agit sur le lobe occipital, le centre visuel, le lobe temporal, une région qui gère plusieurs fonctions cognitives, dont l'audition, et le lobe pariétal, qui intègre plusieurs fonctions, dont la vision, le toucher et l'audition. L'un des effets les plus remarqués chez les consommateurs de cannabis est l'altération de la perception du temps. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça.
Faites-toi
semblant.
On m'a dit. Non, oui, dans mon jeune temps, oui. Oui, effectivement, c'est...
Perception du temps un peu. Et voilà,
oui, c'est vrai.
Et c'est là que nous retournons au début du jazz. Une fois sous l'effet du cannabis et à force de répéter constamment les mêmes pièces, les musiciens se sont mis à entendre les trous entre les notes, en plus d'avoir soudainement envie de modifier les tempos selon l'émotion qu'ils voulaient transmettre. Évidemment, le jazz est plus complexe qu'un simple trip de fumée de pote, mais comme le disait Louis Armstrong, la marijuana te fait te sentir bien. Ça te rend relax et ça te fait oublier toutes les mauvaises choses qui arrivent quand tu es noir. Ça fait en sorte que tu te sens désiré et quand tu es en présence d'un autre fumeur, tu ressens un lien spécial et fort. Ce qui est particulier dans la relation entre la musique et le cannabis, c'est que les effets ont permis de libérer la musique de sa partition en tout temps. C'est là que ça, qu'on voit le lien avec le jazz.
Oui.
C'est un argument qui a longtemps servi à démoniser cette substance. Le chimiste James Munch, qui a travaillé comme expert officiel en ce qui a trait au cannabis pour le gouvernement américain, entre 1938 et 1962, disait, et pour lui, il trouvait ça négatif, là. Il disait, « Si tu es musicien, tu es censé jouer la musique comme elle est imprimée sur la partition. Mais si tu fumes, tu vas ajouter deux fois plus de musique qu'il devrait y en avoir entre la première et la deuxième note. C'est à la base du jazz l'idée que tu puisses jazzer les choses, les rendre plus vivantes. Pas que je veuille être de mauvaise foi, mais je ne vois pas en quoi cela pose problème. »
Puisque ça te fait du bien. Retour en 1967 avec le Rwandais Jacques Michel et cette pièce se fume ta marijuana.
Ah, ça nous ramène dans nos jeunes années. Merci beaucoup. Et puis, moi, je vais vous amener complètement ailleurs. En fait, je vais vous parler de la langue déné, des cours de déné pour... je ne savais pas que la langue existait. Alors, des cours de déné pour empêcher l'extinction de la langue. C'est un texte que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici Alberta, publié le 14 octobre, et c'est signé Nelly Alberola. Il ne reste aujourd'hui plus que 37 membres de la Première Nation albertaine Tsutina capables de parler leur langue, le déné. D'où ces cours proposés au Centre de ressources autochtones Lodgepole de l'ACAD, le Collège albertain des arts et du design de Calgary. Bruce Starlight fait partie de ces 37 personnes restantes, dont la plus jeune des 37 personnes, a déjà plus de 60 ans. Donc, c'est pour ça qu'on craint l'extinction. Aîné de la Première Nation Tsutina, située au sud de la province, il sait que le défi d'enseigner le déné en seulement 10 séances sera dur à relever. Nous allons bientôt disparaître. Nous devons absolument passer ce savoir aux jeunes autant que possible et le plus rapidement possible. Il en va de la survie de notre identité. Entièrement subventionné par le gouvernement fédéral, le projet pilote, unique dans la province, a permis la création de ces cours hebdomadaires gratuits pour 25 étudiants. 25 places comblées en quelques jours à peine, alors même que la campagne de communication autour de ce nouveau programme n'avait pas commencé. Une liste d'attente a même été créée et 40 noms y figurent. On ne s'attendait vraiment pas à un tel engouement. C'est la coordonnatrice autochtone du centre Lodgepole de l'ACAD, Tina Kinney-Brown, qui nous dit ça. « Nous sommes ravis de voir que la demande est là. Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des autochtones et des non-autochtones sont inscrits au cours. » Jo Mary Crowchild Fletcher, une jeune femme Tsutina qui a grandi en Colombie-Britannique, loin de sa nation, fait partie de ses 25 étudiants. Ayant déménagé récemment à Calgary, ses cours sont l'occasion parfaite de renouer avec ses racines. Ça a un sens presque spirituel et holistique, ça me rend une partie de moi. Le projet prévoit également la création de cours sur Internet, ainsi qu'un dictionnaire déné anglais, disponible au grand public et dont des copies seront remises au musée de la Première Nation Tsutina. Pour ceux qui se posent la question depuis le début, ça s'écrit T-S-U-U-T-I-N-A. Nous comptons également remettre un rapport au gouvernement à la fin de l'année pour montrer tout le travail et pouvoir le prolonger. C'est encore Tina Kinney-Brown qui nous dit ça. Les classes ont lieu tous les mercredis soirs jusqu'en décembre, au Centre des ressources autochtones de l'ACAD, le Collège albertain des arts et du design de Calgary. Et en terminant, une statistique qui m'a un peu... j'ai pas compris, j'ai fait des recherches, puis j'ai pas compris Je vais vous lire la statistique, on verra avec vous. Selon un recensement de Statistique Canada de 2016, 13 000 personnes parlent le déné au Canada, dont la grande majorité, presque 70 % en Saskatchewan. Alors, au début, on a dit qu'il y en a seulement 37, puis à la fin, on a dit qu'il y en a 13 000. Alors, est-ce que s'il y en a 37 de la Première Nation en Alberta, puis les autres sont tous éparpillés, ou est-ce que c'est pas le même déné que celui de la Nation? À suivre, mais en tout cas, c'est un cours qui va peut-être donner l'idée à d'autres nations pour préserver leur langue, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en voie de disparition. Et maintenant, on passe au rock'n'roll,
oui,
Daniel.
Oui, c'est le deuxième de la série de trois articles de François Lemay qui est paru celui-là le 7 septembre et qui a pour titre « Musique et cannabis, potes, politique et rock'n'roll ». Si au cours de la première moitié du 20e siècle, certains musiciens jazz n'ont jamais vraiment caché leur consommation de cannabis, soit en parlant ouvertement ou en écrivant des chansons inspirées par le plaisir procuré par son inhalation, les autorités américaines et une grande partie d'un public plutôt conservateur n'approuvent pas particulièrement cette pratique. C'est dans ce contexte qu'arrive une nouvelle génération de musiciens durant les années 50 avec un besoin de contester cet ordre moral établi, les rockers. Le pote acquiert un statut symbolique au sein d'un mouvement appelé la contre-culture qui naît au début des années 60 aux États-Unis. On n'est alors plus ici dans l'émancipation et le plaisir. Fumer du cannabis devient un acte politique.
Carrément politique.
Oui, oui, oui. Dans les années 60, c'était différent, là. C'est au sociologue américain John Milton Younger que l'on doit la première utilisation du terme « contre-culture » qu'il décrit comme un sous-groupe dont l'élément rassembleur principal est d'être en conflit avec les valeurs générales de la société. Et là, il y a encore une autre définition très longue,
ça,
mais ça, ça résonne assez bien.
C'est un peu comme les anarchistes, là, qui
ça
sont contre tout.
Ça
semble
pas mal, finalement. Contre-culture, c'était juste pour donner un nom à cette époque-là.
Oui, c'est ça.
C'était la même chose à chaque génération. L'un des représentants les plus populaires de ce mouvement est Bob Dylan, grand consommateur de cannabis devant l'éternel. Dans une entrevue accordée au magazine Playboy,
ceux qui lisent pour
là-dedans.
Les articles,
ouais,
là, c'est ça.
Je l'ai précisé, là, oui, ceux qui pensent qu'il y a des photos, c'est pas vrai. Bon. Donc, dans une entrevue accordée au magazine Playboy, Dylan répond ceci lorsque le journaliste lui demande si le fait d'essayer des drogues doit faire partie du développement normal d'un jeune adulte. Je ne conseille à personne de consommer des drogues, particulièrement des drogues dures, qui devraient être considérées comme des médicaments. Mais l'opium, le hash et le pot ne sont pas vraiment des drogues. Leur consommation ne fait...
L'opium, c'est pas vraiment une drogue.
Apparemment, selon M. Dylan.
D'accord.
Donc, leur consommation ne fait que travestir un peu ta pensée, et je pense que tout le monde devrait travestir sa pensée une fois de temps en temps. Donc, ça donne bien à partir d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir le faire. Le contexte social de l'époque est donc un terreau fertile pour les bouleversements sociaux. Les États-Unis sont en guerre contre le Vietnam depuis 1955. Mm-hmm. On a entendu parler juste à partir de 10 ans
plus
tard.
C'est vrai qu'on oublie que ça a commencé en 1955 et puis les Français étaient là même avant
Effectivement, oui. Mm. Donc, une guerre qui divise particulièrement la jeunesse américaine et qui amplifie son désir de se dissocier de la culture dominante. Si l'on ajoute à ça le mouvement des droits civiques et le fait que les premiers boomers arrivent à l'adolescence au début des années 60, on comprend que tous les ingrédients sont réunis pour donner naissance à une crise des valeurs qui se jouera sur le terrain de la contestation de l'ordre établi. Et quoi de mieux que le rock, une musique qui, à l'époque, est détestée par les parents pour se forger une identité. Bien évidemment, la consommation de cannabis ne fait pas qu'établir symboliquement une des bases de la révolution contre-culturelle. Elle a aussi des effets sur la façon de créer de la musique. Si, comme on l'a vu dans l'article sur le cannabis et le jazz dont on parlait tantôt, si cette drogue altère la perception du temps, certains musiciens rock transformeront aussi leur façon de composer une fois sous son influence. Durant les années 50 et au début des années 60, les rockeurs sont généralement attirés par l'alcool et les amphétamines, une drogue qui permet de jouer vite et de rester éveillé longtemps. Tout ça change lorsque certains artistes se mettent à consommer du cannabis au début des années 60. En plus des pièces un peu plus lentes et longues, les thèmes abordés dans les chansons sont contaminés par le pot. Oui, on court toujours après une fille en apparence, mais celle-ci risque de s'appeler Marie-Jeanne.
They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you. they'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get
Je suis fasciné par la chemise que porte Daniel parce que c'est du pote, là, c'est imprimé dessus.
C'est vrai, ça. Il n'y a pas autant de feuilles, je pense, mais oui, c'est définitivement dans la thématique. Mais Serge, Daniel est souvent fleuri.
Oui, mais c'est pas le même type de végétation.
Et flyé aussi, peut-être.
C'est là-dessus que tu termines la première partie de l'émission. On vous revient avec d'autres sujets sur le pote et d'autres sujets après une courte pause. Ah. De retour pour une deuxième partie, toujours en compagnie de Daniel Lachance, Serge Bradet et moi-même Isabelle Falardeau. En deuxième partie, Serge, de quoi vous allez nous parler?
Oui, je vais vous parler de histoire de rue.
Vous poursuivez sur le thème de la semaine dernière?
Oui, ben à chaque parution, ils ont vraiment cette chronique-là, là,
d'histoire
de rue. Je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais, c'est vraiment chouette.
Malheureusement, Daniel, vous allez être déçu. Il n'y a aucune rue qui s'appelle cannabis.
Il y a
une rue Ganja ou Marie-Jeanne.
Votre côté, Daniel, vous allez poursuivre dans un autre style musical.
Oui, mais toujours sur le même thème du cannabisme.
Du cannabisme, merci. Et puis de mon côté, je vais vous parler d'autodéfense. Qui peut-être... le lien, ça serait que peut-être le cannabis, on va l'enlever au crime organisé, violence. Bref, mais je pense que tout le monde sait que la violence et les femmes autochtones, c'est malheureusement deux choses qui vont ensemble et qu'on on aimerait voir disparaître. Et on commence tout de suite avec cette fameuse chronique de l'itinéraire « Histoire de rue ».
Alors, dans cette édition-là, elle nous parle la rue d'Iberville et la rue de La Fontaine. C'est plus sur la rue d'Iberville que La Fontaine. C'est Jean-Claude Nau qui est camelot au métro Champ de Mars. Iberville, on sait, vous savez...
C'est quelque chose d'Iberville, là?
Iberville, celui
dans notre
histoire. Non,
mais il n'y avait pas
histoire.
Un prénom, c'est pas Pierre de machin. De
Pierre Lemoine, sur
Le Moine d'Iberville, oui, c'est ça. Je me semblais qu'il y avait un autre.
Oui, oui. On rentre dans l'histoire du Québec dans les années 1600, au début de la colonie. Alors, la rue d'Iberville a été nommée en souvenir de Pierre Lemoine, sieur d'Iberville. Il est né à Ville-Marie en 1661 et c'est le premier explorateur français né en Nouvelle-France.
Ah, c'est ça, il est vraiment né
ouais.
ici.
Ah oui,
il est
vraiment,
ça,
vraiment.
Là,
lui, c'est un Québécois pur laine.
Oui, Québécois pur laine, ouais. Bon, on disait pas Québécois à l'époque, tu sais. Alors, il est le fils de Charles Lemoine, un illustre seigneur et marchand de la Nouvelle-France. Pierre Lemoine est connu pour avoir été un grand explorateur, colonisateur et homme de guerre. À 45 ans, il décédera à La Havane lors d'un séjour personnel. Il est allé voir des amis.
Dans un tout inclus.
Dans un tout inclus, oui. C'est vrai, ça avait déjà commencé à l'époque.
Ben oui.
C'est vrai. Bon,
mais 45 ans, c'est jeune quand même.
Oui, ben à l'époque, on...
Ouais. Mais la haute société vivait
ans,
plus longtemps.
T'étais vieux à 45 ans, ces années-là. Hein.
Oui.
Ouais, c'est,
donc, personne
ne mourrait
jeune.
Mais...
Non. Mourrait vieux, mais ouais. À 45 ans.
Les premières victoires militaires de ce personnage ont commencé à ses 24 ans. C'est quand même remarquable.
Ben, il fallait commencer jeune si
ben,
on
oui.
mourait à 45.
Oui, oui, oui. Puis, à partir de 1685 jusqu'en 1694, il entreprend plusieurs voyages dans la baie de James et la baie du Tson pour chasser les troupes britanniques et reprendre possession d'établissements commerciaux. Vous savez, dans les années 60, pour le centenaire du Canada, en 1967, on avait fait, en 65 à peu près, le 66, la série d'Iberville.
Oui, je me souviens.
Très, très belle série d'époque, qui est une des séries, je pense,
c'était
la plus
Albert
coûteuse.
Miller
ouais.
qui jouait le rôle.
Oui, c'était la série la plus coûteuse de l'histoire de la télévision.
Ah oui, ouais. À l'époque.
Mais
j'ai oublié.
Ouais.
Mais
même
ça.
Maintenant,
j'ai
je pense
ça.
Que ça n'a pas été dépassé. Écoutez, il fallait qu'ils reconstruisent des navires d'époque, des forts en bois de l'époque, qui aillent tourner à l'extérieur, dans des endroits très reculés. C'était vraiment...
Et puis le nombre de figurants aussi, j'imagine.
Ah, le nombre de figurants, c'était énorme, ouais. Si Sieur d'Iberville a marqué l'histoire du Québec et de toute l'Amérique du Nord, il n'y a pas que la rue d'Iberville qui lui rend hommage. Plusieurs endroits sont nommés à la mémoire du grand homme. La commission toponymique du Québec en relève 90 dans la province. Et allons en Louisiane. On trouve en Louisiane la paroisse d'Iberville, en l'honneur de Pierre Lemoine. Dans l'État du Mississippi, c'est une ville qui porte son nom, ni plus, rien de moins. Ce sont des preuves de son passage marquant sur ses terres. Lors de ce voyage, l'explorateur était avec son frère, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville. En 1699, il est en effet le premier homme d'origine française à redécouvrir l'embouchure du Mississippi et par la même occasion, la Louisiane, qu'il nommera ici à l'honneur de Louis XIV et plus tard, la Nouvelle-Orléans. Je dis redécouvrir parce que on oublie qu'en 1683, François Cavalier de La Salle a été le premier à découvrir ce qui deviendra la Louisiane.
Ah oui, ouais. C'est vrai. Mais on a appris ça à l'école.
Oui, oui. Mais il mourut quelques années plus tard en tentant d'y retourner. Alors, reconnaissant les preuves du passage de Cavalier de La Salle, c'est à Pierre Lemoine que reviendra l'acte de fonder la colonie de la Louisiane, puis il continuera ses explorations vers le sud, ce qui le mène en 1706 à prendre la Guadeloupe aux Anglais. Et la rue d'Iberville, on l'a désignée comme ça avant, dans les années 1880, et elle va quand même assez longue, en 6,4 km, et orientation nord-sud, elle fait de Notre-Dame à Jarry. Et la rue Lafontaine, c'est en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine, le sénateur canadien-français, puis également, c'est un des pères fondateurs de la Confédération. Enfin, il a marqué, était très important. La rue a été nommée comme ça en 1901, nommée et ouverte à ce moment-là. C'était une nouvelle rue. Alors voilà.
Merci beaucoup. Et maintenant, on est avec... est-ce qu'on va danser un peu?
Peut-être.
Daniel?
Donc, le troisième de la série d'articles de François Lemay, musique et cannabis, ganja, reggae et spiritualité. Celui-là a été écrit le 14 septembre, donc il y a un mois environ.
Je pense que c'est la plus évidente. Le reggae,
probablement,
en tout cas,
nous,
on associe ouais. ça.
Après avoir traité de jazz, de rock et de leur relation avec le cannabis, il sera ici question de l'aspect spirituel de la ganja. Parce que vous savez qu'en Jamaïque, le cannabis pop, tout ça, on appelle ça ganja.
Mais ça fait partie de la religion.
Oui, c'est ce qu'on explique un peu ici.
Si le reggae trouve ses origines musicales dans une fusion entre le ska, le calypso, le rocksteady et le rock'n'roll, il est aussi pour plusieurs le porte-étendard du rastafarisme, mouvement culturel, social et spirituel né en Jamaïque à la fin des années 30, d'une volonté de rapprocher les descendants d'esclaves de leurs racines africaines. Le mouvement Rastafari tire son nom de Tafari Makonnen, empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974, connu sous le nom d'Haïlé Sélassié Ier. Mais comment un empereur éthiopien a-t-il pu donner son nom à un mouvement spirituel jamaïcain à 12 500 km de là? C'est que durant les années 30, le mouvement Back to Africa prend de l'ampleur alors que la communauté des descendants d'esclaves noirs vit une intense crise identitaire. En Jamaïque, cette réflexion est incarnée par Marcus Garvey, surnommé le Moïse noir, qui fait office de prophète d'un mouvement qui vise à unir toutes les communautés noires du monde. Garvey fait de Sélassié une sorte de messie noir et génère le mouvement Rastafari autour de ce personnage, qui, ironiquement, ne reconnaîtra jamais le rastafarisme, l'Éthiopie étant un État résolument chrétien depuis 1500 ans.
Bon.
Et le cannabis dans tout ça. Alors, encore là, il faut retourner un peu dans le temps, au milieu du 19e siècle, pour être plus précis, alors que la Jamaïque est une colonie britannique. Après l'abolition de la vente d'esclaves sur le marché international en 1807, les Britanniques importent des travailleurs des Indes, une autre colonie britannique, qui, eux, amènent dans leur bagage des plants de cannabis qu'ils appellent ganja. Donc, ça vient
c'est
de
les Indiens qui ont amené ça en Jamaïque. C'est vraiment intéressant.
Oui. Cette herbe est grandement consommée par les Afro-Jamaïcains à un point tel que les élites blanches qui contrôlent les instances politiques du pays décident d'en interdire la consommation et la culture avec la loi ganja votée en 1913. Donc, on voit que c'est encore une question de se rebeller un peu contre la loi.
Il y a vraiment un aspect révolutionnaire.
Ouais. Sachant cela, il y a donc une certaine logique à ce qu'un mouvement identitaire noir rende symbolique la consommation du cannabis interdite par les Blancs. C'est dans ce contexte que plusieurs adeptes du rastafarisme, certains sont quand même contre, décident de faire de leur consommation de ganja une partie intégrale de leur expérience sociale, politique et spirituelle, puisque, selon eux, elle doit être fumée dans l'objectif d'élever la conscience et l'âme et dans un contexte méditatif. L'herbe guérit la nation est leur devise et cette herbe ne doit pas être utilisée à des fins récréatives, donc c'est seulement des fins spirituelles. C'est donc dans ce contexte que vient au monde le reggae, développé par des musiciens dont les préoccupations sociales et identitaires concordent avec celles du rastafarisme. N'importe quel bon prétexte, à le fond, pour faire de la musique et fumer du pot.
Oui, ça, mais là, attends, mais là, c'est vraiment des fins spirituelles,
ouais,
par
ouais,
contre.
Ouais, ouais. Ils ont trouvé un
la
bon filon.
Mais la musique aussi élève l'âme, donc
en
les
principe,
deux vont bien ensemble.
Oui. Donc, comme le cannabis est considéré par ses adeptes comme faisant partie intégrante de cette prise de position, il deviendra l'un des thèmes majeurs abordés ouvertement dans les chansons. On entend les mots ganja, pot, cannabis et marijuana dans les textes reggae. On en chante les vertus où l'on demande directement sa légalisation, comme dans la chanson Legalize It, chanson éponyme de l'album de l'ancien membre des Wailers, Peter Tosh, paru en 1975. Il est évidemment impossible d'aborder ce sujet sans parler des positions du légendaire Bob Marley, porte-étendard du reggae. Lui-même converti au rastafarisme en 1966, il était catholique avant, il militera toute sa vie pour la légalisation du cannabis. D'ailleurs, le rastafarisme doit sa popularité internationale à Marley, qui popularise le mouvement partout dans le monde avec sa musique.
Un jour, un ami de très loin m'a dit: There is no condemnation. Aime tout ce qu'il y a comme tu t'aimes, et tout ira bien comme ça. For you and for I. And I and I and I. For you and for I. And I and I and I. Chez lui, on connaît bien le monde.
Et on vient d'entendre le grand Boule Noire avec La Loi de Jah. C'est tiré de son album de 1982 qui s'intitule tout simplement Boule Noire Reggae. Et c'est enregistré pour la petite anecdote. Les musiciens qu'on a pu entendre sont les Wailers, donc la formation de Bob Marley. C'est eux qui ont accompagné.
C'est vraiment ça intéressant.
Ça paraît, parce que ça sonne comme du vrai reggae.
Ça m'a fait découvrir, j'ai eu envie d'ajouter du Boule Noire dans ma liste de lecture. Et si on peut pas, parce que là, on sait que la... Le de fumer du cannabis, ça fait, ça enlève la violence. moi, j'ai remarqué que les gens qui fumaient du cannabis étaient beaucoup adoucis. Mais si c'est pas possible, ben, on peut se défendre. Alors, ça m'amène à mon sujet. Lien ténu, mais des filles autochtones apprennent l'autodéfense pour se faire respecter. C'est un article qui a été publié le 12 octobre sur le site de Radio-Canada, ici Saskatchewan, et qui est signé Lise Wangari avec des informations d'Adnan Mohamed. On y parle d'une femme autochtone qui s'illustre dans les arts martiaux et qui se rend régulièrement chez les Premières Nations pour enseigner aux jeunes filles à se défendre. Et on ne mentionne pas l'âge des jeunes filles, là, mais on voit sur, il y a des belles photos qui accompagnent l'article avec des jeunes filles qui ont tellement l'air positives et de se sentir empowered. Je sais qu'on a un terme en français. Rebecca McKenna, dans son émission, on avait parlé...
Non, ça me dit...
Mais en tout cas, c'est pas grave. Empowered. Consciente de sa propre force. Alors, c'est ça, il y a des jeunes filles qui ont l'air d'avoir pas plus que 8-9 ans là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment, on parle vraiment de jeunes filles, mais il y en a des plus vieilles aussi. Donc, en plus d'enseigner des techniques d'autodéfense sur le tatami, Shana Passapa cherche surtout à former des battantes dans la vie. Pied opposé, la main levée pour protéger votre tête. Soyez prête, tête haute, bien, parfait, lance Shana Passapa à des jeunes filles à terre qui s'apprêtent à se lever d'un bond. Un peu plus tôt, Shana Passapa et son équipe de Power Our Women, donnons de la puissance ou de la force à nos femmes, un programme d'autodéfense pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, ont pris la route de Purigina pour se rendre à la Première Nation Ocean Man, située à environ 140 km au sud-est de la capitale, en Saskatchewan. Originaire de la Première Nation White Bear, Shana Passapa se rend régulièrement dans les communautés autochtones de la Saskatchewan et des provinces voisines pour enseigner aux filles, de 8 à 18 ans, des techniques d'autodéfense. « Je veux qu'elles prennent conscience de ce que leur corps est capable de faire pour qu'elles apprennent à se défendre. » Ça fait 8 ans que la mère de 2 enfants pratique les arts martiaux. Âgée de 30 ans, elle enseigne aux filles des techniques anti-enlèvement et leur montre la survie au sol, la gestion du corps, la fuite ou encore des méthodes de frappe. C'est toutes des choses qui semblent vraiment importantes pour lutter contre justement la disparition des femmes autochtones qui est généralisée. « Notre corps est un cadeau, c'est chez elles. » Je ne sais pas si ça s'est traduit de quoi en anglais. C'est chez elle, c'est it's their home, je ne sais pas. En tout cas, c'est chez elle et je veux leur apprendre à en prendre soin et à devenir un être humain plus fort. Si nous pouvons apprendre à nous échapper devant quelqu'un, cette habileté devrait être à la portée des femmes et des filles. C'est toujours Shana Passapa qui nous dit ça. Pour créer son programme d'autodéfense Power Our Women, la jeune femme confie avoir été inspirée par les tristes cas de centaines de femmes autochtones disparues et assassinées. J'ai réfléchi au problème des femmes et des filles disparues et assassinées. J'ai pensé à des amis et à des membres de la famille qui se sont trouvés dans ce type de situation et à la façon dont ça m'a affectée. Et je me suis dit que je peux réellement aider ces gens-là. Dans son rapport provisoire, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées indique qu'en Saskatchewan, une femme autochtone est 19 fois plus à risque d'être assassinée ou de disparaître qu'une femme blanche. Madame Passapa a donc créé un espace spécifiquement réservé aux femmes et aux filles, car elle pense que des femmes ne sont pas à l'aise dans les salles de sport où la présence des hommes domine. Les femmes ont le droit de se sentir en confiance, de se sentir fortes et puissantes. Pour elle, se défendre est une affaire de famille. Être capable de me défendre a toujours fait partie de ma vie. Elle explique avoir grandi avec un frère et un beau-frère qui faisaient de la boxe et un oncle avec qui elle allait chasser avant de regarder des matchs de championnat de combat ultime. À 12 ans, sa mère la mettait déjà en garde sur la réalité de la femme dans ce monde. « Tu es belle, ma fille, mais tu dois faire attention et garder la tête haute. » Au-delà des entraînements des arts martiaux, Mme Passapa veut former des battantes dans la vie. En travaillant dans la communauté, j'ai appris que les femmes et les filles autochtones ont des luttes différentes, qu'elles sont placées dans des endroits où elles doivent vraiment survivre et qu'elles sont plus vulnérables que les autres. Nous devons donc créer ces occasions pour les encourager à faire de leur mieux et à leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a encore de l'espoir ou même un peu d'amour et de soutien. Des femmes viennent me voir et me disent « Tu me donnes envie de revivre. Je me sens tellement plus confiante. » Autant de réactions qui encouragent Mme Passapa à poursuivre son combat. Et on poursuit tout de suite avec vous, Serge, et votre dernier sujet, qui est un sujet surprise qu'on n'avait pas annoncé.
Oui. Alors, du 5 décembre 2018 jusqu'en avril 2019, le musée Pointe-à-Calière va souligner le 25e anniversaire d'une famille très célèbre du Québec.
Famille célèbre. Est-ce qu'on est en musique, en art, en philanthropie,
en
entrepreneuriat?
En art, c'est une famille qu'on a vue à la télévision.
La famille Plouf?
Non, à la télévision.
C'est pas une vraie famille.
Famille Dion.
Ah, non. La famille Dion,
famille dysfonctionnelle.
Ah, oui, je le sais, ben oui, papa, la petite vie.
Ben oui, la petite vie.
Ah, oh, mon Dieu,
vie.
Oui.
Oui, oui.
Wow.
Alors, c'est un article de Luc Deschênes, toujours de l'itinéraire. 25 ans de steak blé d'une patate. Au Québec, la famille a toujours occupé une grande place à la télévision. Il suffit de penser à la famille Plouf ou à Quelle famille ou d'autres séries. Mais illustrée par des personnages uniques à l'humour absurde, le sujet n'avait jamais été présenté sous un angle aussi disjoncté qu'à travers la petite vie. Les aventures de la famille Paré avec Papa, Maman et leurs quatre enfants, tous complètement dysfonctionnels, ont littéralement bouleversé le paysage télévisuel québécois. Diffusée pour la première fois le 16 octobre 1993, la télésérie La Petite Vie de Claude Meunier fascine, déclenche les rires et rejoint toujours 500 000 spectateurs 25 ans plus tard, parce que c'est en reprise le samedi soir.
Oui, c'est en rediffusion, puis c'est vrai que c'est toujours aussi... Ça n'a pas tant que vieilli que ça.
Non. Je pense que ça vieillira jamais. C'est un fait assez miraculeux selon le réalisateur qui lit ce succès tant à la distribution qu'à l'aspect burlesque et absurde d'un terme intemporel. D'ailleurs, petite aparté, c'est l'émission La Petite Vie qui a eu la plus grosse cote d'écoute un certain soir. Là. Je pense que c'était 1 million, je ne sais pas combien de cotes d'écoute.
Ah,
et, oui. Et ils avaient calculé, quand tu atteins ce nombre-là, ça veut dire qu'à peu près tout le monde qui était disponible pour écouter la télévision écoutait. Il ne restait plus rien pour les autres émissions.
Je pense c'est à peu près comme les Beatles ou Ed Sullivan.
À peu près, oui, c'est ça, oui. Alors, un succès instantané. À ses débuts, La Petite Vie pouvait laisser perplexe. La facture visuelle, les costumes et le fait que le personnage de Jacqueline Paré, Maman, soit interprété par un homme, le comédien Serge Thériault, pouvaient déranger certains téléspectateurs. D'ailleurs, il semble qu'au lendemain de la première diffusion, Marc Messier, Régent Pinard, se serait fait traiter d'idiot dans un dépanneur. Il faut dire que Régent est un personnage sans aucune qualité, menteur, tricheur, infidèle, puis un paresseux fini.
Mais c'est une belle qualité parce qu'il interprétait tellement bien son rôle qu'on y croyait.
Oui. La Petite Vie est un accident de parcours, dit Claude Meunier, parce qu'à l'époque des lundis des AA, lui et Serge Thériault avaient décidé de faire un premier épisode de téléroman inspiré de tous ceux de l'époque et particulièrement du personnage de Pépère dans Terre humaine, joué par Jean Duceppe. Je ne sais pas s'il était très heureux de ça, Jean Duceppe.
Mais est-ce que vous avez déjà vu ce sketch-là des lundis
oui,
des AA? Je me souviens.
Ben
de...
Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le moment et Papa avec les vidanges.
C'était encore plus absurde
oui,
que
ah,
la
oui.
série. Le réfrigérateur, il était à peu près 4 fois gros qu'un main normal.
Sur le plateau de diffusion, les gens ne riaient pas comme d'habitude, constate le réalisateur. Il riait de manière hystérique. Par ailleurs, saviez-vous que l'ancêtre de La Petite Vie est un numéro réalisé par Marc Messier et Diane Lavallée autour du thème des montres détectrices de mensonges présenté à l'émission Les Beaux Dimanches en 1992?
Ah ben ça, j'étais pas au courant, par exemple.
Malgré quelques réticences de certains téléspectateurs, le public québécois s'est rapidement identifié à cette famille très spéciale. Et bien que personne ne souhaite ressembler à l'un ou l'autre des personnages, plusieurs traits de la nature humaine qui caractérisent bon nombre d'entre nous étaient soulignés par l'humour unique et délirant de Claude Meunier. Également, des sujets sérieux, dont la lassitude dans le couple, les membres d'une famille rejetée, le père incapable de dire « je t'aime » à ses enfants, ou encore le sujet de l'homophobie est abordé de façon savoureuse et humoristique. Dans la petite vie, le quotient intellectuel des personnages varie énormément d'un épisode à l'autre, souligne Claude Meunier. Parfois, certains personnages, comme Maman, sortent des phrases du type « le langage, c'est les entrailles d'un peuple ». C'est assez fort, hein? Alors que l'épisode d'après, elle n'est pas capable de donner « la couleur du cheval blanc de Napoléon ». C'est volontaire, c'est au service de l'humour. L'humour sauvait tout. J'aurais aimé être là aujourd'hui pour parler de l'islam. Je ne sais vraiment qu'est-ce que ça donnerait. Hein. Ce serait vraiment... On pouvait parler de tout dans la petite vie, ou presque. Il y avait de la dérision, un recul. L'arroseur était toujours arrosé. Les seules fois où j'ai reçu des critiques, c'était à propos d'un épisode qui abordait la religion. Toujours un petit peu sensible, ça. Mais qui sont les personnages de la série culte et où Claude Meunier est-il allé chercher son inspiration? Je voulais des personnages soumis ou fragiles, comme dans le cas de Thérèse, et un personnage plus explosif avec Caro.
Oui,
ça
ne
peut pas être plus explosif que ça. Dans chacun d'entre eux, il y a des gens que je connais et de l'invention. Timmy, par exemple, c'est beaucoup de mon père. Il y a aussi un peu de ma sœur dans certains personnages, ma tante, des amis, moi. Devenir un membre de la famille Paris. La petite vie, ce sont aussi des répliques cultes, comme le fameux « steak de dinde patate », sans cesse répété par Maman, ou encore le « je ne suis pas cheap » de Marc Labrèche, alias Rénal. Ce sont enfin des costumes et des décors marquants. La tapisserie de la cuisine, la jaquette et le bonnet de Maman, sans oublier Papa avec sa laine d'acier en guise de barbe et son casque brun ainsi que le lit debout. D'ailleurs, si Papa et Maman dorment à la verticale, c'est pour des raisons techniques. En faisant la petite vie au Club Soda, explique l'auteur, on a voulu faire Papa et Maman au lit. Seulement, le propriétaire du club nous a dit qu'on ne voyait rien et qu'il fallait rehausser le lit. On l'a levé et encore levé. Finalement, on l'a mis debout. Tout le monde s'est mis à rire. Autant de détails que le public pourra s'approprier dès le mois de décembre au musée de Pointe-à-Calière. En effet, si l'exposition « La petite vie » circule depuis 4 ans déjà, elle a été revampée pour son passage à Montréal. L'exposition est fascinante, affirme Claude Meunier. Beaucoup de nouvelles choses et d'ajouts technologiques vont permettre aux gens de donner la réplique au personnage. Ah, ça doit être intéressant.
Ben oui, c'est vraiment oui. Chouette.
De faire des tests de personnalité pour savoir à qui il ressemble le plus. Passer au détecteur de mensonges, je vais encore faire le tour de toutes les jaquettes de Maman.
Allez, toutes les jaquettes.
On va aller voir ça, je pense.
Merci beaucoup, Serge.
Aller voir ça. OK.
Et vous m'avez donné le goût d'amener mes enfants et de leur faire voir des épisodes de La Petite Vie parce que c'est générationnel, hein? Mes enfants, 93, n'étaient pas nés. Puis ça a duré jusqu'en quelle année, on a dit?
Oh mon Dieu!
En tout cas, ils n'étaient pas nés.
Ça a arrêté, ils ont eu des reprises tout de suite. Je pense que c'est sans interruption pour 25 ans.
Mais bref, c'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Si jamais je vais à l'exposition, je vous en donnerai des nouvelles.
Oui.
Et puis, merci beaucoup à Jean-Sébastien Liberté qu'on est tellement contents de retrouver. Et à la mise en onde et aux choix musicaux. En fait, les choix musicaux aujourd'hui étaient principalement assurés par Daniel Lachance.
À deux.
merci beaucoup, Serge Bradet.
Plaisir.
Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.